Chapitre 5. Trop beau pour durer. Dans mes confidences, je n'avais dit à Charlotte ni la nature de ma mission, ni l'obligation dans laquelle j'étais de quitter immédiatement Huxter's Cross pour m'en aller dans un pays inconnu à la recherche des archives des Meynell. Comment aurais-je pu prendre sur moi de lui dire que je devais la quitter, et comment, hélas, pouvais-je m'y résoudre? Indifférent que j'étais devenu à tout ce qui n'était pas mon amour, je résolus de me donner hardiment un congé, en dépit de Sheldon et de ses intérêts. « Suis-je donc esclave ? » me demandai-je à moi-même, au point d'être obligé de courir ici et là, moyennant 20 shillings par semaine. Allons donc ! Remarquez en passant que le montant de la rémunération fait seul la différence en pareil cas. Il est piteux pour un clerc d'avocat de suer sang et eau pour gagner ses gages de chaque semaine, il est tout à fait digne à un ministre d'État d'obéir à l'appel de son souverain et de courir le monde, l'ancien et le nouveau, sur un signe de celui-ci. J'écrivis donc à mon Sheldon. Je lui dis que j'avais rencontré des amis et que j'avais l'intention de m'accorder un petit congé. Il me restait encore une partie des 30 livres que j'avais empruntées, et je me croyais millionnaire. 3 000 livres à 5% font 50 livres par an. Je me disais qu'avec ce revenu et ce que je pourrais gagner, ma Charlotte et moi serions à l'abri des orages de la vie. Ah, quel bonheur j'éprouverais à travailler pour elle! Je ne suis certainement pas trop vieux pour commencer une nouvelle vie, pas trop vieux pour le barreau, pas trop vieux pour le journalisme, pas trop vieux pour devenir un homme honorable. Après avoir expédié ma lettre pour Sheldon, je courus à la ferme de Newhall. J'avais reçu du meilleur des oncles et de la meilleure des tantes une sorte d'invitation en bloc. Mais par discrétion, je m'arrangeai de manière à n'arriver chez Mr. Mercer qu'après l'heure du dîner. Je trouvai Charlotte seule dans le bon vieux parloir. La tante était occupée à la cuisine, l'oncle faisait sa tournée ordinaire de l'après-dîner dans les porcheries, les étables, les granges. J'ai appris par la suite que Miss Halliday avait l'habitude d'accompagner son excellent parent dans cette visite d'après-midi. Mais ce jour-là, elle s'était plainte d'une petite migraine et avait préféré rester à la maison. Elle avait cependant fort peu de disposition à la migraine. Je la trouvai appuyée sur la fenêtre, regardant la route par laquelle j'arrivais. L'aurore en personne n'aurait pu être plus éblouissante. Elle m'accueillit avec un sourire presque divin. Nous nous assîmes près de la fenêtre, où nous restâmes à causer, jusqu'à ce que les lueurs grises du crépuscule se fussent étendues sur la prairie et que les moutons fussent rentrés au bercail, au gai tintement des clochettes, accompagnés des larges coups de gueule des chiens. Ma Charlotte me dit que notre secret avait déjà été surpris par sa tante et son oncle. Il paraît même qu'il l'avait taquiné toute la journée à mon sujet, mais en bon parent. « Il vous aime réellement beaucoup, » dit joyeusement ma Charlotte, « mais je crois qu'il pense que je vous connais depuis bien longtemps et que vous êtes tout à fait intime avec mon beau-père. C'est presque les tromper que de leur laisser croire cela, mais je n'ai réellement pas eu le courage de leur avouer la vérité. Combien ils me jugeraient imprudente s'ils savaient qu'il y a si peu de temps que je vous ai rencontrée. 20 fois plus de temps que Juliette n'avait connu Roméo lorsqu'ils vinrent dans la cellule du moine pour se marier, lui répliquai-je. Oui, mais ce n'est qu'une comédie, reprit Charlotte, et il fallait bien hâter le dénouement. À la pension, nous étions toutes d'avis que Juliette était une jeune personne bien hardie. Tous les poètes parlent du coup de foudre, et je gagerais que l'oncle Joe a été amoureux fou de la tante Dorothy après avoir dansé 2 ou 3 fois avec elle, dis-je à mon tour. Puis la conversation a pris un autre tour plus sérieux. J'appris à la chère enfant que j'espérais avoir prochainement un petit revenu fixe et commencer une vraie carrière. Je lui dis à quel point elle m'avait inspiré le goût du travail et combien j'étais rassuré sur l'avenir. Je lui rappelai que Sheldon n'avait aucun droit sur elle et que le testament de son père l'ayant laissée entièrement sous la tutelle de sa mère, elle n'avait à consulter que celle-ci. « Je crois que ma pauvre maman me laisserait épouser un balayeur des rues si je la priais bien. mais vous savez fort bien que les volontés de maman, cela veut dire les volontés de Mr. Sheldon. Elle ne pense exactement que ce qu'on lui dit de penser, et s'il est fortement opposé à notre mariage... » Comme j'en suis certain, l'interrompis-je. Il agira sur maman à sa façon, jusqu'à ce qu'il l'ait convaincue, ce qui ne sera pas long. Mais l'autorité de votre maman elle-même ne durera pas toujours, ma chère. Vous aurez 21 ans dans un an ou deux, vous serez libre alors de vous marier comme vous l'entendez, et comme, grâce à Dieu, vous n'avez pas 6 pence qui vous appartiennent en propre, nous nous marierons tout de suite, en dépit de tous les beaux-pères du monde. « Combien je voudrais être riche pour l'amour de vous, » dit-elle avec un soupir. « Réjouissez-vous pour l'amour de moi de ne pas l'être, » lui répliquai-je. « Vous ne pouvez imaginer les complications et les difficultés que la fortune crée dans ce monde. Il n'y a pas d'esclave mieux enchaîné que l'homme qui a, comme on dit, pignon sur rue et un capital chez son banquier. Le vrai roi de la création est l'homme qui porte tout ce qu'il possède sous son chapeau. » Après avoir ainsi moralisé, je me mis en devoir de demander à Miss Halliday si elle était prête à supporter une situation plus humble que celle dont elle jouissait à la pelouse. « Vous n'aurez pas de confortable landau, lui dis-je, pas de groom prêt à courir la ville et la campagne sur un signe de sa maîtresse, pas de femme de chambre coiffée en grande tenue dès 11 heures du matin, mais au lieu de tout cela, une pauvre petite boîte en forme de maison, avec 6 pièces, une bonne à tout faire, dont la figure sera toujours barbouillée de charbon, de suie, de graisse. Pensez à cela, Charlotte, et demandez-vous si vous pouvez le supporter. » Ma Charlotte se mit à rire, comme si cette perspective eût été le plus délicieux tableau que l'on pût offrir à l'humanité. « Croyez-vous que je me soucie de tout cela ? » s'écria-t-elle. « Si ce n'était à cause de maman, je détesterais cette soi-disant belle villa et tous ses prétendus agréments. Vous voyez combien je suis heureuse ici, où il n'y a aucune prétention aux grandeurs. Mais nous ne serons même pas en état dans les commencements de nous donner le luxe de thé comme ceux d'ici, » lui fis-je remarquer en manière de parenthèse. « Ma tante nous enverra des paniers de volailles et de gâteaux, monsieur, et en attendant, nous nous arrangerons pour vivre de pain et d'eau. » Je promis alors à ma bien-aimée un hôtel avec un landau mieux construit que celui de Mr. Sheldon, pour plus tard, bien entendu. Je suivrai ses beaux yeux comme une étoile, et je me sentais assez fort pour gravir la pente glissante qui mène jusqu'au sac de laine qui sert de siège au grand chancelier. Après que nous fûmes restés longtemps assis dans la demi-obscurité, bavardant avec ivresse, la tante Dorothy arriva, suivie par une robuste servante qui apportait des lumières et une autre servante, non moins robuste, chargée d'un lourd plateau, couvert de tout ce qu'il faut pour le thé, et elles étendirent sur la table une nappe d'une blancheur de neige. Presque aussitôt entra l'oncle Joe. Comme la tante Dorothy, il se montra aimable, presque farceur. Le thé fut suivi d'une nouvelle partie de whist, dans laquelle la tante Dorothy et moi remportâmes une victoire facile sur Charlotte et l'oncle Joe. L'intimité familière de ce cercle domestique me mettait de plus en plus à mon aise. J'y jouissais avec orgueil de la position d'un fiancé attitré. Mes Arcadiens ne s'inquiètent en aucune façon de l'approbation ou de la désapprobation de Mr. et Mrs. Sheldon, non plus que de mes projets d'avenir ou de mon passé. Ils voient mon amour pour la jeune fille, ils comprennent qu'elle est heureuse, et ils l'aiment tant qu'ils sont disposés à ouvrir leur cœur sans réserve à celui qui l'aime, fût-il riche ou pauvre, noble ou roturier. De même que 10 ou 12 ans auparavant, ils lui eussent donné, sans regarder au prix ou à la qualité, la poupée de cire qu'elle eût désirée, ils lui donnaient aujourd'hui leur approbation et leur sourire en faveur du fiancé qu'elle avait choisi. Je sais que Sheldon est un homme qui vise toujours à la meilleure chance, dit l'oncle Joe, et je parierais bien que vous aurez de la peine à vous entendre avec lui, d'autant plus que le testament du pauvre Tom a laissé toute la fortune à sa femme, ce qui équivaut à dire que c'est Mr. Sheldon qui en a la disposition. J'assurai l'oncle Joe que l'argent était le moindre objet de mes désirs. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne vous donnerait pas Charlotte, répliqua Mr. Mercer. Du reste, si elle est privée de la fortune de son père, on ne la privera pas de ce que ses vieux oncles et tantes auront à lui laisser un jour ou l'autre. ces dignes gens étaient là, me proposant une héritière, aussi simplement que s'il se fût agi d'une tasse de thé. Je revins une fois de plus à pied à la lueur des étoiles. Oh, comme j'étais heureux! Le bonheur peut-il être aussi parfait? Une joie si pure peut-elle durer? Je m'adressai ces questions à moi-même, et, de nouveau, je m'arrêtai sur la route au milieu de la lande solitaire. Mais il faut, malgré tout, que les 3000 livres de Sheldon soient à moi avant que je puisse offrir le plus humble abri à ma douce amie. Ce serait certes pour moi une bénédiction de parcourir le monde pieds nus avec Charlotte à mon côté, mais un voyage pieds nus ne s'offre guère à la femme que l'on aime. Donc, mon garçon, il faut se remettre en route. En avant! Encore un jour dans cette délicieuse ferme, et puis plus de retard. En avant, et au grand galop encore! Je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai découvert la ligne matrimoniale de Charlotte Meynell, arrière-petite-fille de Matthew Haygarth, et, si elle existait encore, héritière de droit des 100 000 livres qui vont être broyées par les voraces mâchoires de la couronne. Un jour encore, un jour de délicieux repos dans ce pays des rêves, et puis en route! La pluie fouette les étroits carreaux de ma fenêtre pendant que j'écris. La journée a été désespérément pluvieuse. Je suis resté dans ma petite chambre, occupé à écrire ce qui précède. Le vent et la pluie n'auraient certainement pas eu la puissance de m'éloigner de ma chérie, mais eût-il fait le plus beau soleil, que je n'aurais pu convenablement me présenter 3 après-midi de suite à la ferme. Demain, l'annonce de mon départ sera une excuse valable pour faire une nouvelle visite chez mes aimables oncles et tantes. Ce sera ma visite d'adieu. Aurais-je manqué à Charlotte cet après-midi? Sera-t-elle fâchée quand elle apprendra mon départ? Nous rencontrerons-nous encore sous d'aussi heureux auspices? Retrouverai-je jamais des amis aussi bons, aussi hospitaliers que ceux que je vais laisser?